RCF.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine régional. Ce jeudi, on vous accompagne pour 50 minutes où la joie se partage avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Nos stagiaires à la rédaction sont là évidemment pour vous faire passer une bonne soirée tous ensemble. À mes côtés, Médina Erige. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Vous nous présenterez le programme des fêtes joanniques pour ce week-end notamment.
Exactement.
On va prendre un petit peu d'avance sur les festivités, c'est samedi et dimanche. À nos côtés, il y a également Inès Elgaloussi. Bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Et vous nous présentez la météo.
C'est ça.
On vous retrouve à l'intérieur du journal régional de 18h30. Dans quelques instants, la question d'économie à Gérard-Marie Henry concernera les ventes de champagne et l'exportation du champagne. Nous serons avec Bernard Portier, maire de Grandchamp dans les Ardennes. C'est l'édile qui nous parle ce soir. On parlera également des fêtes joanniques avec François Leboeuf de l'espace missionnaire Reims-Sud et l'on verra comment la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes s'implique notamment du côté de la basilique Saint-Remi à travers cet événement. Nous serons avec le maire de Cézanne, Sacha qui présentera l'exposition Rêve d'Orchidée. L'exposition démarre dans quelques jours. Le coup d'envoi, c'est samedi, le 25 mai. Et puis enfin, on parlera aussi élections européennes dans cette émission avec les jeunes. C'est la rencontre que Jeanne Boudre a faite dans Parole de Jeunes avec Chloé, à tout juste 18 ans. C'est la première fois qu'elle va aller voter le 9 juin prochain. Voilà pour le programme de ce soir. Tout de suite, on commence par la question d'économie à Gérard-Marie Henry. Avec nous par téléphone ce jeudi, Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors souvent dans les questions d'économie, on regarde ce qu'il se passe un petit peu à l'international, parfois en France. Aujourd'hui, on va se rapprocher encore un petit peu plus de notre territoire puisqu'on va s'intéresser à quelque chose d'assez particulier au territoire marnais. On va parler du champagne, hein, ce produit de luxe dont les ventes et les expéditions ralentissent. Gérard-Marie Henry, pour poser un contexte, pour faire une photographie de la conjoncture 2023, puisque en ce fin de premier trimestre 2024, finalement, on découvre les chiffres de l'année 2023. Ça n'a pas été une année aussi belle que 2022, qui avait été une édition record en termes de vente de champagne.
Oui, alors on a effectivement, en 2023, il y a eu seulement 299 millions de bouteilles expédiées, c'est-à-dire presque 9% de moins qu'en 2022. Donc on peut, si on est journaliste, on va dire que c'est un véritable effondrement, d'autant que, en même temps, les ventes de créments ont continué à grimper, on en vend à peu près 60 millions de bouteilles en France, et puis sur les marchés internationaux, les concurrents un peu pétillants comme le Prosecco et le Cava espagnol ont également fortement bondi. Donc on aurait une image qui semblerait assez sombre. Ne se recule des expéditions.
Mais c'est en vrai, fait, Gérard-Marie Henry, si on prend les chiffres, j'allais dire comme ça, brut pour point, on se dit, on passe de 325 millions à 300 millions, ça fait 25 millions de moins, ce n'est pas rien.
C'est pas rien, oui. Mais en fait, si on regarde les chiffres des années précédentes, on s'aperçoit que on était déjà descendu par rapport au record de 2015. Hein. En 2015, on avait fait 321 millions de bouteilles. Et puis après, c'était descendu gentiment, puisque en 2019, on était à un chiffre qui est à peu près le chiffre actuel, en dessous de 300 millions. Donc on n'a pas quelque chose qui est aussi catastrophique si on prend la tendance de long terme. Et puis on peut expliquer un peu ce décrochage par, un, évidemment, l'année 2022 a été une année post-Covid où on s'est un petit peu relâché, donc on en a vu plus pour fêter un peu l'événement, la libération. Donc ça, c'est déjà le premier facteur, hein. On n'est plus du tout dans les mêmes contextes d'arrêt, de ce confinement, etc. Et puis deuxièmement, les maisons de champagne ont, depuis plusieurs années, fait un effort pour exporter plus. Effort pour rebalancer la consommation de champagne, faire en sorte que la part qui va à l'export soit plus importante que la part qui est vendue localement. Et donc là, ils y sont relativement arrivés, puisque à partir de 2018, la part du marché français dans la consommation totale de champagne est descendue en dessous de 50%, alors que dans les années 2010, on était à plus de 60. Donc on a percé à l'export avec des bouteilles plus qualifiées, plus chères, des premiums. Et donc ce qui est bon aussi pour les maisons de champagne et pour les exportateurs, c'est-à-dire que la marge est meilleure. Donc on a une transformation du marché du champagne vers l'international avec des bouteilles qui ne sont pas du brut sans année, qui va être réservée au marché français. Donc ça, ça explique aussi un peu le changement. Et puis le troisième changement, c'est qu'on a un produit de base pour faire le champagne, c'est le raisin, et que ce produit de base, ben, il coûte de plus en plus cher. En fait, les vignerons qui proposent leurs raisins aux maisons. Hein. Les maisons, elles n'ont pas suffisamment de surface pour faire toute la production dont elles ont besoin, donc elles achètent le raisin à des vignerons. Et là, eh bien, on a une augmentation assez fantastique du prix du kilo de raisin, qui était à peu près à 5 euros, il est passé à 6, à 7, et des fois, dans certains grands crus, il est à 8 euros le kilo, donc du raisin vraiment extrêmement cher. Et donc, il a fallu répercuter ça sur l'ensemble des bouteilles. Donc ça veut dire que la bouteille brute sans année de base, bah, il a vu son prix augmenter, surtout que tous les autres ingrédients, les capsules, les habillages, les cartons, etc., tout ça coûte plus cher qu'il y a quelques années. Et donc ça explique un petit peu la réaction du grand public français qui se dit bah, un champagne à 25 euros, ça fait cher quand même, quoi. Je vais peut-être en consommer un peu moins. Et donc on a un retour à la vérité des prix, et donc ça a un impact effectivement sur l'achat. Mais c'est pas du tout catastrophique, puisque ça permet aux maisons de continuer à avoir leur marge de profit qui est intéressante, d'être présente sur les marchés à l'exportation. Donc moi je trouve que l'histoire n'est pas si sombre que ça, et je suis assez d'accord avec le comité champagne qui dit bah, le champagne est en train de reprendre son rythme de croisière.
Et est-ce que quelque part, Gérard Marie aussi, pour donner du grain à moudre à votre moulin, il n'y a pas l'idée de se dire que ce qui est cher, c'est des produits rares, et que finalement, si le champagne se fait, j'allais dire, un petit peu plus rare, un petit peu plus précieux, ça permet de conserver cette idée que le champagne est un produit de luxe?
Absolument, de faire la démarcation avec les pétillants comme le crémant, le cava, le prosecco, etc. Le champagne est dans une classe différente. C'est effectivement un produit de luxe, et donc c'est pas la maximisation de la production qui compte. Hein. C'est pas se battre faisant d'une dizaine de millions de bouteilles en plus, c'est au contraire se battre pour avoir des prix à la bouteille qui sont rémunérateurs et puis bien marquer sa différence.
Gérard-Marie Henry, dans la question de l'économie, vous le savez, il y a toujours ce petit combat, j'allais dire ce petit battle, les petits contre les gros. Ceux qui exportent à l'international, ce sont plutôt les grandes maisons de champagne que l'on connaît, qui sont renommées sur le territoire. On pense par exemple à Veuve Clicquot, à Mouette, à Moum, à Tétinger, on pourrait en citer d'autres évidemment, des grandes maisons qui sont basées à Reims ou à Épernay. Et puis il y a aussi les petits vignerons qui, eux, finalement, ne peuvent pas exister face à cette concurrence à l'international. Est-ce que tout le monde retrouve sa part du gâteau, finalement, dans ce marché, dans ces expéditions, dans le marché français, dans le marché international?
Je pense que oui, parce que si ce n'était pas le cas, on verrait le prix des terres de champagne commencer à arrêter de monter. Et donc, c'est que ça continue à être rémunérateur, même pour le petit vigneron indépendant. Bah, en général, il continue à faire son champagne, ou s'il ne le fait pas, bah, il vend son raisin à 7 euros, 8 euros le kilo, ce qui lui fait, encore une fois, une belle rente de situation. Donc, on n'a pas une lutte. Le comité champagne, c'est à la fois des représentants des grandes maisons et aussi du syndicat des vignerons. Donc, ils sont à peu près en phase. Alors, évidemment, il peut y avoir des petites bisbilles, mais ils ont tous la même idée, c'est-à-dire faire ce que vous avez raconté tout à l'heure, garder cette image positif du champagne, faire en sorte qu'il se démarque des autres vins pétillants qu'on a sur les marchés mondiaux. Et donc là, je crois qu'il y a un accord assez fort entre les deux parties, les vignerons indépendants et les grandes maisons travaillent ensemble, pas sur les mêmes marchés, comme vous l'avez dit, mais avec la même idée de défendre cette boisson locale assez savoureuse.
Et est-ce que nous avons séduit de la même manière le marché français que le marché étranger, Gérard-Marie Henry?
Sur le marché étranger, justement, on travaille avec des bouteilles plus haut de gamme, pas d'entrée de gamme. On essaye de faire des cuvées premium et de correspondre aux critères du marketing international, du luxe, justement.
J'allais dire, Gérard-Marie Henry, je me permets, je vous interromps. Est-ce que c'est vraiment du champagne haut de gamme dans la bouteille ou c'est du haut de gamme un peu en termes de bling-bling? On pense à certaines maisons qui, parfois, vont ajouter des paillettes d'or, vont mettre des bouteilles bleues. On part un peu dans tous les sens.
Moi qui suis chanteur de rap, je suis d'accord avec vous, il y a un aspect assez bling-bling. Mais c'est pas grave, c'est ça le marketing international. Le consommateur éclairé de Londres, il se fait pas trop avoir par le bling-bling. Par contre, il sait que un millésimé d'une grande maison française, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et il l'achète. Donc on a là encore une convergence, quoi. On a l'effet grand spectacle de ces bouteilles à des prix extraordinaires que vont boire certains chanteurs. Et puis l'ensemble des bouteilles premium qui sont vendues sur les marchés internationaux et qui intéressent des véritables connaisseurs du champagne. Et là, je pense qu'on a une marque qui va rester.
Les ventes et les expéditions de champagne en 2023 à la baisse, mais à un indicateur qui reste stable par rapport aux années précédentes. C'est ce qu'il faut retenir, évidemment, de cette question d'économie avec vous, Gérard-Marie-Henri. Merci de nous avoir éclairé. Plus d'informations peut-être sur votre blog, gérardmariehenri.com, et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avant de retrouver le journal régional dans quelques minutes, un maire qui nous parle. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi, également à midi sur les ondes de RCF Reims-Ardennes. Aujourd'hui, il nous vient des Ardennes, il nous vient de Grandpré, notre maire près du Chêne. C'est Bernard Portier qui est en ligne avec Jean-Pierre.
Bernard Portier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Alors c'est l'occasion d'aller à votre rencontre dans le département des Ardennes à Grandchamp. Pouvez-vous nous présenter un peu votre commune de Grandchamp? Combien d'habitants? Où est-elle située, votre commune?
Donc Grandchamp, c'est une petite commune rurale de 92 habitants actuellement, qui est située entre Signes-Abbaye et Novion-Porcien sur la départementale 985.
Combien de kilomètres de Rethel?
On est à 17 km de Rethel, l'entrée de Rethel, côté du lycée agricole là-bas.
Ah oui, du côté, quand on est sur la 34, on voit justement le lycée agricole. Alors justement, monsieur le maire, vous êtes maire depuis combien de temps? Est-ce que vous avez toujours souhaité être maire? Comment ça s'est passé? Vous connaissez tout le monde, bien sûr, à Grandchamp.
Oui, bien sûr, je suis né à Grandchamp, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis maire depuis mars 2008. Et donc, je suis au conseil municipal depuis mars 1983.
Et vous avez été adjoint,
j'étais premier adjoint avant depuis 3 mandats. Et donc, notre conseil municipal était renouvelé en 2008. Hein, notre ancien maire avait déménagé. Donc, il n'y avait pas énormément de prétendants pour.
Oui, vous avez pris le relais.
Donc, voilà, quoi. C'est venu naturellement.
C'était quand même peut-être chez vous un esprit de service. Je vais quand même peut-être pas changer un petit peu les ordres des questions qu'on vous pose habituellement, mais il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui abandonnent, hein, parce qu'ils trouvent que c'est quand même compliqué, surtout si on a une activité professionnelle. Vous-même, vous étiez en activité professionnelle quand vous avez été maire?
Oui, j'étais en activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est pas aussi simple quand on est maire et en activité professionnelle, parce qu'on ne peut participer aux réunions que le soir, après le travail bien sûr, et c'est beaucoup plus simple en étant retraité, où là on peut participer à des réunions de journée, on apprend des choses, on pour des choses comme ça par exemple, c'est des fois plus intéressant de pouvoir participer à des réunions de journée. Quoi.
Alors, pas forcément... comment peut-on décrire Grandchamp aujourd'hui, votre commune, le type d'habitants, est-ce que c'est des retraités, est-ce qu'il y a des agriculteurs?
La commune de Grandchamp, il y a deux grosses exploitations en activité là sur le village. Et après c'est un bon quart de retraités, et puis après le reste des salariés, quoi. On a aussi 4 résidences secondaires, donc avec des gens qui viennent.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui ont décidé d'acheter, ou en tout cas de rénover, et d'habiter Grandchamp.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup des gens, enfin des enfants d'habitants du village qui sont revenus ici. On a un petit peu d'autres personnes qui viennent d'ailleurs aussi. Hein, mais qui préférait le charme de la campagne plutôt que la ville, quoi. Et n'étant pas très très loin au niveau des distances des villes qui emploient, Rethel, Reims, Charleville.
Oui, ils veulent être quand même à portée pour pas perdre trop de temps dans les transports, et puis ça coûte cher. Voilà. Alors il y a les communautés de communes, Bernard Portier, aujourd'hui. Est-ce que malgré tout, tous les maires disent qu'ils restent quand même très importants pour leur commune? Mais est-ce qu'il est encore, entre guillemets, hein, le patron de la commune? Le maire, il est reconnu dans sa commune, mais bon, il y a quand même la communauté de communes qui prend beaucoup de décisions quand même aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Pour moi, la communauté de communes, c'est complémentaire à la commune. Nous, on a la chance d'avoir une communauté de communes, 94 communes, c'est une grande communauté de communes, mais c'est une communauté qui est essentiellement rurale. puisque la plus grosse commune des 94 fait à 1300 habitants. Donc voilà, ça reste quand
et
même.
Comment s'appelle votre communauté de communes pour bien situer dans les Ardennes?
C'est la communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
Des Crêtes Préardennaises, bien sûr. Et d'ailleurs, on avait reçu un pas mal de maires, on avait reçu aussi Daniel Thomas de Mondigny qui nous en avait parlé. Mais vous êtes encore, c'est ça la question, le maire, le patron chez lui, je veux dire, on s'adresse à lui dans le village, surtout si vous êtes qu'une petite centaine.
Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, le maire, on appelle le maire pour beaucoup de choses. Des fois, les problèmes avec les voisins, les problèmes de chiens qui traînent, et voilà, ou des renseignements sur sur un peu n'importe quoi, sur les aides pour les travaux, sur beaucoup de choses, quoi. Et donc, il y a aussi le travail de la secrétaire de mairie qui est important, quoi, dans une petite commune.
Alors, est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce que vous avez, pour les années qui viennent, les mois qui viennent, ou c'est en cours en ce moment, en disant, on va essayer à grand champ de faire telle ou telle chose? Est-ce que vous avez quelque chose, monsieur le maire?
Oui, tout à fait. Là, on est en train de finir le projet d'aire de jeu pour les enfants, là. C'est en train de se terminer, donc c'était le gros chantier de 2023. Et pour 2024, on a le projet de rénovation globale énergétique du bâtiment mairie, logement communal, salle polyvalente, où là, ça représente aussi un gros travail et un gros investissement.
Et c'est là que la communauté de communes apporte sa contribution et surtout ses subventions. Oui ou non, peut-être
oui,
pas.
Oui, un petit peu, mais surtout des aides techniques, quoi, que la communauté de communes amène dans ce cadre-là, quoi.
Alors, il y a l'aire de jeu, il y a bien sûr les économies énergétiques. Est-ce que, bon, sur le plan voirie, éclairage, enfin bon, vous avez, en ce moment, c'est stand-by, vous attendez un peu ou c'est déjà prêt?
La voirie, on vient de faire des très très gros travaux qu'on a terminés en 2021. Donc des travaux de bord de route, assainissement pluvial,
ah oui,
passage PMR tout le long du village et avec également des ralentisseurs, donc des plateaux et une demi-écluse d'entrée du village pour ralentir la vitesse, puisque le village fait plus d'un kilomètre de long et en général ça roule très vite, quoi.
Donc, ah oui, ça traverse en vitesse, oui. Alors simplement redemander, on n'a pas évoqué seulement le sujet, mère et vie professionnelle, vous vous arrivez à conjuguer les deux, mère et vie familiale, des réunions...
Familiale, oui, il faut avoir une épouse qui soit assez conciliante.
J'ai pas de conseil à vous donner, monsieur le maire, mais faites-la entrer au conseil municipal, comme ça vous serez tranquille, vous n'aurez pas de problème.
Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc,
bon, voilà, c'est formidable. Alors, évidemment, sur RCF, on est à votre disposition à tout moment, s'il y a quelque chose dans la commune, une fête, une kermesse, si vous connaissez un certain nombre de sujets. Est-ce que, c'est la question qu'on pose à chaque fois, est-ce que vous êtes un maire heureux? C'est-à-dire que malgré ces difficultés, on parle beaucoup des maires en ce moment,
et puis
finalement on leur demande beaucoup de choses, et puis on n'est pas suffisamment reconnaissant vis-à-vis des maires.
Oui, ben, il y a beaucoup de soucis au niveau de paperasserie, toutes les démarches et tout ça qui sont toujours longues, avec énormément de documents à fournir, enfin... C'est vrai que c'est assez compliqué.
C'est le mal français quand même, ça.
Hein.
Dans
notre
pays aussi,
fait,
même.
Mais ça, c'est pas que la mairie. Hein. Maintenant, c'est un peu partout, comme tous les organismes. Hein. C'est comme ça.
Mais écoutez, Bernard Portier, on est très heureux de vous avoir accueilli. Avec vous, bien sûr, toute votre commune, tous les... Comment s'appellent les habitants de Grandchamp, pour finir?
Les Grands Champois.
Ah, les Grands Champois. Eh bien, à toutes les Grands Champoises et les Grands Champois, et à bientôt sur RCF.
Au revoir, Jean-Pierre Benoît.
Au revoir.
Et quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce jeudi 23 mai, les arts du cirque retrouvent le sourire avec l'association Fury de Châlons-en-Champagne qui lancera le 4 juin la 35e édition du festival Fury, mais aussi la 20e saison du Théâtre des Routes Présentation. Cette semaine est consacrée à la fête de la nature. Dans ce contexte, plusieurs communes se mobilisent ce week-end. Illustration à Bouvancourt et Ben-Noroy dans la Marne.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Pour sa 35e édition, le festival de théâtre de rue et de cirque Fury aura lieu du 4 au 8 juin au centre-ville de Châlons-en-Champagne. En parallèle de ce grand rendez-vous, l'association chalonnaise sillonne depuis début mai le territoire marnais à travers le théâtre des routes et propose jusqu'en octobre une quinzaine de rendez-vous dédiés aux arts de la rue et de la piste, comme nous l'explique Jean-Marie Songy, directeur artistique de l'association Fury et du Palc.
Le théâtre des routes, c'est une aventure donc 20 ans. Hein, donc c'est un projet qui est né dans le cadre de ce qui avait été appelé le temps des arts de la rue. Donc c'est une opération d'éclairage du ministère de la Culture sur un secteur qui était les arts de la rue. Et nous, on a opté pour dire ce qui est intéressant, c'est de faire de la décentralisation. Avant, c'était un peu la région Champagne-Ardenne. Maintenant, on a recentré sur le département de la Marne. C'est les villages que l'on connaît dans le département. Après, on va jusqu'à les alentours de Reims, les alentours d'Épernay, dans le vignoble. Et on s'associe avec des fêtes votives ou avec des fêtes de village ou avec des vide-greniers. Et donc là, ça c'est une connexion, c'est une sorte de sensibilisation à ce que l'on concentre à Châlons.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le prochain rendez-vous du Théâtre des Routes aura lieu le 25 mai à Talus-Saint-Prix dans le sud-ouest marnais, avant de poursuivre le 15 juin à Haussimont. Ce week-end, les rencontres Instant Nature de Bouvancourt reviennent pour leur 10e édition. Un bel anniversaire fêté comme il se doit, avec un programme riche que détaille François Bock, chargé de communication de l'événement.
On a décidé d'inviter, comme tous les ans, de mettre la nature au premier plan et d'inviter des photographes de grand renom, de photographes régionaux, pour partager notre passion de la nature. Il y a un couple franco-américain qui, lui, est un couple reconnu mondialement, qui a été récompensé à Dubaï, à Tokyo, même en France et dans plusieurs pays à l'occasion de concours, et qui présente des photos du Groenland, des photos de chouette arfang, de très très jolies photos. Ils sont déjà venus il y a 3 ans déjà, ils ont connu un tel succès, ils viennent de changer leur exposition. Mais on va mettre aussi à l'honneur un jeune photographe ardennais qui a 17 ans, Evan Belkez, qui fait des choses très particulières, beaucoup de photos nature, mais d'animaux à contre-jour. Vous allez voir, c'est artistiquement superbe. On a 2 sites traditionnels qui sont la mairie et l'église, mais par contre, notre particularité, c'est que l'on expose chez des habitants qui accueillent des expositions. Là, pour la 10e année, on a décidé de faire un petit village d'animation. Je dis bien petit parce qu'il n'y aura pas énormément d'exposants. On a un apiculteur qui est très proche des enfants, qui va expliquer comment fonctionne une ruche. Il aura des rayons où on présente les ruches où on travaille. Il y aura une fédération, la CPN, la Connaître et Protéger la Nature, qui sera très pédagogique pour apprendre aux gens comment on peut connaître et bien la protéger, cette nature qui est en danger. Il y a l'LPO, qui est fidèle avec nous. Il y aura la maison de Boultobois, qui travaille beaucoup avec les enfants, qui est très connue dans la région. Et le collège de films qui revient, comme l'année dernière, présenter une micro-entreprise. Et bien sûr, on donne un petit coup de pouce aussi à une association toute nouvelle à Reims, qui s'appelle les Bulles Vénitiennes de Reims, qui sont très sympathiques. Et les Vénitiennes, c'est le principe d'avoir des gens, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes, qui sont habillés en femmes, masqués, et qui vont déambuler tout le dimanche dans le village, et qui seront tout à fait à votre disposition si vous avez votre appareil photo pour se faire laisser photographier.
Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 14 ans. Et comme ce week-end, c'est la fête de la nature, différentes animations sont organisées un peu partout sur notre territoire, comme à Bennes-Noroy. Romain Bonhomme, le maire de la commune, est en ligne avec Jean-Pierre Benoît.
Romain Bonhomme, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors c'est vrai que ce week-end est assez exceptionnel, il va y avoir à Bennes-Noroy la fête de la nature. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, ça fait partie d'un des événements de cette fête nationale qui s'appelle Fête de la Nature, qui est organisée au niveau de la France entière de la semaine du 22 au 26 mai. Et donc, on a cette particularité à Bennes-Noroy d'avoir ce village détruit à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui est le village de Noroy, qui est un village détruit et donc qui est animé par une association de sauvegarde du patrimoine qui s'appelle les Amis de Noroy, et qui prend soin de cet élément d'être un témoin de l'histoire, mais aussi de permettre d'avoir des actions pédagogiques de découverte du site. Et puis sur ce site, au fur et à mesure des années, la nature et la biodiversité a largement pris ses droits et s'est installée assez naturellement sur cet écrin de verdure et d'histoire. Ce qui fait que tous les ans, donc le week-end, donc à partir de ce samedi 25 mai après-midi, je vous invite et j'invite les habitants du village et les Marnais, et pourquoi pas les Ardennais, à venir découvrir à la fois ce village historique et puis cette nature qui s'est installée. Il y a plusieurs choses qui sont proposées pendant cette journée.
Oui, on voudrait le programme, Romain Bonhomme.
Donc il y a plusieurs choses, il y a bien entendu des balades qui sont organisées à partir de ce samedi après-midi à partir de 15h et puis le dimanche toute la journée, donc en balade libre ou accompagné par des bénévoles qui vous feront découvrir et qui vous raconteront l'histoire du village détruit. Et puis il y a aussi des ateliers donc de reconnaissance des espèces, de la faune et de la flore, puisqu'on est juste à proximité d'un site Natura 2000, avec une richesse de diversité tout à fait remarquable, que des passionnés se feront un plaisir de faire découvrir, j'espère, aux nombreux visiteurs ce week-end.
Vous pouvez cocher l'un ou l'autre des rendez-vous, ou même les deux, pourquoi pas. Il faut dire que ce week-end sera particulièrement animé, aussi à Reims, avec les fêtes joanniques, un événement que nous présente Médina Erich.
Les fêtes joanniques reviennent à Reims ce week-end, les 25 et 26 mai. Comme chaque année, la ville célébrera Jeanne d'Arc et revivra l'effervescence des 33 sacres royaux de son histoire. Les festivités, réparties autour de la cathédrale et de la basilique Saint-Rémy, proposent marchés médiévaux et animations variées. Commencez votre visite par le concert de la compagnie Savoy qui se produira à partir de 11h sur le parvis de la cathédrale. Ensuite, explorez le jardin Henri Desneux pour découvrir la vie quotidienne au Moyen-Âge avec des ateliers de forge et des démonstrations de combat en armure. Puis vous pourrez vous restaurer ou simplement visiter les marchés médiévaux de Saint-Rémy et de la cathédrale qui accueilleront 120 stands. De surcroît, vous aurez l'occasion d'assister à un spectacle de rapaces à 13h30 à Saint-Rémy afin de tester vos talents de chevalier avec la compagnie du Paladin qui propose un parcours d'initiation en plusieurs épreuves. Les plus audacieux pourront même participer à une course de mini-chars. Il y aura également des démonstrations de catapultes, canons et autres machines de 14h30 à 15h15 suivies de combats en armure jusqu'à 16h30. La compagnie Lamuse proposera également des potions personnalisées. Pour conclure en beauté, profitez d'un spectacle des arts du cirque à 18h sur le parvis de Saint-Rémy, suivi de la parade royale à 21h et des spectacles régalia qui auront lieu à 22h sur les deux sites jusqu'à 23h.
Merci Médina, on reparle des fêtes joanniques dans quelques minutes en fin d'émission avec François Leboeuf de l'espace missionnaire Reims Sud qui évoquera une mobilisation à la basilique Saint-Rémy tout au long du week-end. Place à la météo désormais avec Inès Elgaloussi. Bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances pour ce vendredi en Champagne-Ardenne ?
Alors, cette nuit, ce jeudi 23 mai, les nuages seront au rendez-vous sur l'ensemble des départements. Dans les Ardennes, les températures sont estimées à 10 degrés à Charleville-Mézières et Sedan. Ce sera également le cas dans les villes de la Haute-Marne, où il fera 10 degrés à Saint-Dizier et Chaumont. Quant à l'Aube, les températures seront légèrement plus élevées, car il fera 11 degrés à Troyes et Bar-sur-Seine. Dans la Marne, il fera 12 degrés à Reims et 11 degrés à Châlons-Champagne et Vitry-le-François. Demain matin, le ciel sera nuageux sur l'ensemble des départements. Dans les Ardennes, il fera 12 degrés à Charleville-Mézières et 13 degrés sur l'ensemble des villes. Les températures seront légèrement plus élevées dans l'Aube, car il fera 14 degrés à Troyes, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube. Dans la Marne, il fera 15 degrés à Reims, Châlons-Champagne et Vitry-le-François. Quant à la Haute-Marne, les températures annoncées sont de 15 degrés à Saint-Dizier, où des éclaircies seront présentes. Enfin, demain après-midi, de l'orage est avisé sur l'ensemble des départements. Dans la Marne, il fera 10 degrés à Reims et 20 degrés à Châlons-en-Champagne. Quant aux Ardennes, les températures sont estimées à 19 degrés à Charleville-Mézières, Sedan et Rethel. Dans l'Aube, il fera 19 degrés à Troyes et Bar-sur-Aube. Et il en va de même dans la Haute-Marne. Les températures annoncées sont de 19 degrés à Saint-Dizier. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Donatiens. Je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Inès. Évidemment, on avance une bonne fête à tous les Donatiens. Si se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
La deuxième partie de ce magazine régional avec les jeunes et les élections européennes. Certains peuvent paraître éloignés, voire insensibles au sujet. Pourtant, d'autres vont faire usage de ce droit citoyen qu'est le droit de vote le 9 juin prochain. Chloé s'entretient avec Jeanne Boudre dans Parole de jeunes.
Bonjour et bienvenue dans Parole de jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chloé pour aborder le sujet des élections européennes. Bonjour Chloé.
Bonjour Jeanne.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi de pouvoir voter ?
Étant donné que je viens d'avoir 18 ans au début d'année et que c'est mon premier vote, ça signifie beaucoup de choses parce que je pense que je vais me sentir entre guillemets utile. C'est un sujet important pour moi et le fait de pouvoir y voter la première année, ça me plaît beaucoup.
Comment est-ce que tu te renseignes sur les différents programmes proposés ?
Alors, concernant les programmes, j'essaie un peu de regarder les différents débats qu'il y a à la télé, même si pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le programme de tous les candidats par courrier. Mais quand je le peux à la télé, donc que ce soit avant d'aller en cours le matin ou au courant de la journée, j'écoute un peu les débats. Donc, par exemple, il y avait Valérie Hayet, il y avait eu Raphaël Glucksmann qui est venu, donc, en l'occurrence, sur BFM et tout. Et même si j'attends officiellement les programmes de tous les candidats par courrier.
Pourquoi est-ce que ces élections sont importantes pour toi ?
Pour moi, elles sont importantes parce que c'est quand même l'Europe, l'Union européenne. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que l'Europe, l'Union européenne, etc., ça passe après présidentielle et que c'est pas très, entre guillemets, important. Mais moi, je pense qu'il faut quand même voter. Il faut pas faire comme les présidentielles où il y a eu une énorme abstention. Je pense qu'il faut quand même voter parce qu'on dépend assez souvent de l'Europe, selon moi, et c'est important de voter. Même si certains sujets peuvent être assez compliqués, ce que je suis d'accord, parce que même moi, des fois, il y a certains sujets que je ne comprends pas trop parce que c'est tellement large, l'Europe et tout, mais il ne faut pas qu'il y ait une énorme abstention, surtout pendant le premier tour durant ces élections.
À ton avis, que faudrait-il mettre en place pour que les gens soient plus au courant de ce qu'il se passe à l'échelle européenne ?
On peut essayer de parler des différentes institutions dans le cas des cours d'EMC. Concernant moi, j'ai pris PSES et donc j'ai eu un chapitre sur le cadre européen. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a différentes institutions. Enfin, on a l'Union européenne, on a l'Europe, c'est pas des fois évident à distinguer. On a tout ce qui est proposition de loi et tout, où est-ce que ça passe, puisque ça passe dans différents endroits, mais c'est voté autre part. Moi, par exemple, j'ai fait une sortie à Bruxelles à la Commission européenne. Donc j'ai une fonctionnaire européenne qui nous a entre guillemets à peu près expliqué le rôle de la Commission européenne, que en gros c'est pas que c'est moins important que le Parlement européen, mais ils ont le pouvoir législatif, donc ils peuvent faire les lois, mais après ça passe via le Parlement européen. Mais il y a énormément d'institutions, et c'est pour ça qu'il faudrait que peut-être, je sais pas, la veille des élections ou qu'un jour un programme télé parle réellement ce que sont les différentes institutions, pour que les Français et même les autres personnes s'intéressent et comprennent un peu le fonctionnement du cadre européen, parce que c'est assez compliqué à comprendre. Moi aussi, j'ai reçu ma carte d'électeur. Il y a une cérémonie avec le maire Arnaud Robin. Donc, on a été accueillis à la mairie. Il a fait son discours. Et après, justement, on a eu un jeune homme qui a présenté assez rapidement ce qu'était l'Europe. Par exemple, les différents candidats qui se présentent en France, les différents membres dans les différentes institutions. C'était résumé, ça donne quand même le cadre. C'était bien d'en parler, même si je pense qu'il aurait peut-être fallu le présenter à un autre moment. À la télé, je pense à la télévision, ça passe mieux que devant une salle de 200 personnes. C'est une bonne initiative, mais c'est pas très bien passé.
Merci beaucoup, Chloé, d'avoir répondu à mes questions. C'est tout pour cette interview, et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Sans transition, en attendant le passage de la flamme olympique le 30 juin prochain, la ville de Cézanne accueille à nouveau l'exposition Rêve d'orchidées, 10 000 orchidées, une serre à papillons exotiques, un bassin à jet d'eau, des photos géantes et bien d'autres surprises seront proposées sous la halle du 25 mai au 2 juin. L'occasion pour RCF de vous présenter ce bel événement avec le maire de Cézanne, Sacha Evac, au micro de notre correspondant Christian Lancio.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sacha et merci de nous accueillir dans votre mairie.
Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Rêve d'orchidée qui revient cette année de façon tout à fait exceptionnelle, avec une inauguration le vendredi 24 mai et une ouverture au public donc du 25 mai au 2 juin sur la place du docteur Huguier, donc sous notre superbe halle de style Baltard, donc avec une exposition et des animations donc qui seront proposées, une mise en scène donc fleurie d'orchidées et d'autres plantes également, avec une entrée totalement libre et gratuite, donc un événement à ne pas louper, puisque vous savez qu'il n'a lieu que tous les 2 ans et que notre ami et sponsor nous avait dit il y a 2 ans que c'était la dernière édition. Donc à chaque fois nous croisons les doigts, mais on a encore la chance d'avoir une édition cette année, donc profitez-en toutes et tous.
Votre ami c'est un Hollandais.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un amoureux de Cézanne qui avait découvert le camping de Cézanne il y a quelques années. Et de fil en aiguille, donc, il a fait connaissance de Cézannais et notamment de membres du conseil municipal. Et donc, on a la chance depuis de pouvoir organiser maintenant, depuis plusieurs années, cette manifestation donc, qui est organisée avec l'aide de sponsors hollandais qui nous prêtent et finalement nous donnent gratuitement in fine ces orchidées, ces autres plantes qui seront mises en lumière, qui seront mises en œuvre sous la halle.
On va terminer les rêves d'orchidées par la fête foraine.
2 juin sera un week-end un petit peu particulier puisque le 1er et le 2 juin, donc la fête foraine sera présente place du Champ-Benoît à Cézanne. Et il y aura également le 2 juin de 6h à 18h la brocante, donc brocante fête foraine. Et cerise sur le gâteau, donc le marché des producteurs locaux aura également lieu le 2 juin de 8h à 18h, et cela autour de la halle, donc là où il y aura l'exposition des orchidées. On aura le marché des producteurs le dimanche, donc vraiment, s'il y a un week-end à ne pas louper, c'est bien le week-end du 1er et 2 juin à Cézanne.
Tant qu'il fera beau.
Voilà, tout à fait. Un soleil en Champagne, de toute façon, voilà, vous le savez bien, qu'on essaie en tout cas de garder cette réputation, donc on espère, en tout cas, on croise les doigts.
La fête médiévale qui arrive après.
Oui, alors le mois de juin chargé, puisque la fête médiévale, qui est maintenant un incontournable des animations annuelles proposées à Cézanne. Donc je remercie encore Manon Gastebois et Jérémy Faïs, donc, qui sont les concepteurs et les animateurs de cette fête médiévale, donc qui nous l'ont proposée à la ville de Cézanne. Et cette nouvelle édition aura lieu donc le 15 et le 16 juin, samedi 15 juin, donc avec une nocturne, ce qui sera tout à fait nouveau, puisque de 10h à 23h, le marché sera ouvert et on aura ensuite un spectacle Place de la République. Et le lendemain, donc le 16, dimanche 16 juin, de 10h à 18h. Donc toujours animation gratuite pour les petits et les grands.
Alors cette fête, elle ne veut pas être égale de celle de Provins, mais maintenant elle est devenue annuelle.
Elle est devenue annuelle, on s'arrange pour qu'elle ne tombe pas en même temps que Provins et en tout cas, ceux qui ont aujourd'hui eu la chance de pouvoir y participer nous ont à chaque fois dit que nous n'avions pas à rougir donc effectivement de Provins parce que nous avions une qualité qui était tout à fait exceptionnelle et à la hauteur de notre ville. Ensuite, un autre événement là, qui rayonnera bien au-delà des frontières de Cézanne qui sera le passage de la flamme olympique. Donc nous avons la chance d'avoir été retenus dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 et la flamme passera donc le 30 juin à Cézanne en fin d'après-midi à 17h19 exactement, mais des animations seront mises en œuvre sur le stade de la Fontaine du V tout l'après-midi, donc on vous attend nombreux dès 14h pour partager les valeurs universelles du sport, partager un moment de festivité, de partage et de convivialité, donc vraiment un événement très important pour la ville de Cézanne et on est vraiment très fiers et très honorés de ce passage.
Alors vous connaissez les horaires à peu près maintenant de la flamme ?
Oui, donc on a 1 km, il y aura 4 porteurs de flamme qui traverseront la ville sur 1 km, en passant, donc le départ sera au niveau de l'ancien collège, donc la médiathèque de Cézanne, rue du Capitaine Faucon. Et ensuite, on déambulera entre la rue Notre-Dame pour remonter place de la République et ensuite rejoindre la Fontaine du V, donc en repassant par les mailles des Acacias et en redescendant donc vers le lycée, là où effectivement donc la flamme à 17h30, non 29 exactement, donc repartira pour une autre ville. Alors on remercie avant tout le département, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu un appel qui a été lancé à chaque département français et que certains départements ont refusé pour des raisons financières d'accueillir la flamme sur leur territoire, donc ce qui n'a pas été le cas pour le département de la Marne. Et on a eu la chance d'avoir été sélectionné dans ce cadre-là, puisqu'il fallait que sur le département de la Marne, aussi bien les villes les plus urbaines, les plus peuplées comme Reims, Épernay ou Vitry, puis cette point étape de ce relais, mais sans oublier non plus les plus petites communes et Cézanne, bien évidemment, centre-bourg incontournable du sud-ouest marnais, ne pouvait être oublié. Et nous remercions Monsieur Blanchard, d'ailleurs, le vice-président en charge de l'organisation de la flamme au niveau du département, d'avoir œuvré en ce sens et d'insister pour que le sud-ouest marnais, et notamment Cézanne, soit bien une ville étape dans ce cadre-là du relais de la flamme. Donc un grand merci à lui. C'est un événement qui est extrêmement important pour notre ville. Nous étions encore en train de travailler il y a encore peu de temps avec les services de la gendarmerie, les services de la préfecture, l'ensemble des adjoints qui travaillent également sur le projet, et c'est un événement donc qui demande beaucoup d'investissement également. Donc je rassure les personnes qui se questionnent sur l'investissement financier, nous avons la chance d'avoir un financement leader donc qui prendra en charge 80% du coût de ces jeux, de ce passage en tout cas lié aux Jeux Olympiques.
Leader, donc, c'est un programme européen, c'est
voilà,
ça?
Tout à fait, programme européen qui est porté par le pays, donc le pays, le PETR du pays, et nous aurons donc en gros des charges qui seront de l'ordre de 3 000 € environ pour la ville de Cézanne, donc ce qui est pour un événement de cette taille, quelque chose que l'on peut envisager.
Donc ça arrive tous les 100 ans. Hein.
Tout à fait, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui pourront revenir pour les prochains Jeux, et certainement à Cézanne. Voilà, là c'est vraiment une chance exceptionnelle.
Ah, dites-moi, monsieur le maire, vous étiez enflammé, là, vous avez oublié un événement, là, entre la fête médiévale et puis la flamme, il y a la fête de la musique.
Tout à fait, Christian, excusez-moi pour ce petit oubli, effectivement, le 21 juin, traditionnel, fête de la musique. Mais certains événements nous font effectivement perdre la tête ou en tout cas perdre le calendrier. Et j'en profite également pour rappeler les traditionnels soirs de fête à Cézanne, place de la République, puisque tous les samedis soirs de l'été, donc, nous aurons des concerts gratuits qui seront proposés également place de la République. Donc le premier concert débutera effectivement le 21 juin avec la fête de la musique. S'en suivront les samedis 6 juillet, 20 juillet, 27 juillet et 3 et 10 août, donc place de la République, avec des animations et des concerts gratuits qui seront divers et variés pour tous les goûts et pour les amateurs de musique en tout cas.
Quel beau programme, et tout ça est gratuit, comme vous l'avez dit. On vous souhaite du beau temps, et puis on vous dit bonne fête, et tous les 7 années, profitez-en bien, parce que toutes les villes n'en profitent pas comme ça.
Merci beaucoup Christian, et merci à RCF, à très bientôt.
Merci Sacha Evac et Christian Lancio depuis la mairie de Cézanne. En effet, la flamme olympique passera le 30 juin prochain dans plusieurs communes marnaises, Vitry-le-François, Giffaumont-Champaubert, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menou, Épernay, Cézanne et Reims comme ville étape. Nous y reviendrons plus longuement dans les prochains jours. Dans quelques instants, on parle des fêtes joanniques et du diocèse de Reims et des Ardennes.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, on a le plaisir de retrouver François Leboeuf, membre de l'équipe missionnaire Reims Sud, membre également de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes, et en lien avec la mission Ad Altum de notre diocèse, ils organisent un très bel événement avec l'espace missionnaire Reims Sud, notamment avec les fêtes joanniques qui arrivent ce week-end. François Leboeuf, bonjour.
Bonjour.
De quoi s'agit-il? Parce que c'est vrai qu'il y a les fêtes joanniques, ça les auditeurs sur RCF connaissent et ils sont certainement sensibles, ça fait un moment que ça existe, mais vous, c'est ce qu'on vient de dire dans cette introduction, avec l'espace missionnaire Reims Sud, la fraternité missionnaire et la mission Ad Altum, vous organisez, vous participez à ces festivités avec quelque chose qui va se passer à la basilique Saint-Remi et autour concrètement.
Oui, voilà. Alors, je reprends un peu l'historique de ça. Depuis 2 ans, les fêtes joanniques se déroulent autour de la basilique pour l'aspect, je veux dire, activité liée laïque, si on veut dire. Et puis, donc, il y a 2 ans, on a vu, on n'était pas informé de la chose, et sont arrivés dans la basilique pendant le week-end quasiment 10 000 personnes. Sachant que l'événement en mobilise 150 000, je crois, 10 000 personnes qui ont traversé la basilique. Donc là, on était pris de surprise, voilà. L'année dernière, c'est donc comme l'événement se resituait encore autour de la basilique. Là, c'est l'équipe de bénévoles qui assure la visite de la basilique et qui est en lien avec l'espace missionnaire, qui a pris ça en charge. Et puis, donc, l'année dernière, il y a eu aussi entre 8 et 10 000 personnes. Et on s'est dit, il y a quelques mois, mais c'est dommage de laisser passer ces 8 ou 10 000 personnes et qu'il y a peut-être une manière de leur parler de la basilique, mais avec un côté plus religieux, et leur parler et peut-être prendre du temps avec eux pour parler de Jésus, de Sainte-Jeanne d'Arc, de Saint-Remi. Voilà.
Et donc, en partant de cette réflexion, François Leboeuf, que va-t-il se passer ce week-end?
Donc, on a organisé ça en lien depuis le fin janvier. avec des gens de l'espace. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient intéressées, plus Ad Altum, les scouts et la fraternité missionnaire. Et donc, on a mis en place des ateliers. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent à la basilique seront accueillies extérieures dans les chalets, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un respect vestimentaire et puis qu'on ne mange pas dans la basilique. Donc voilà, une fois qu'elles sont rentrées, elles seront accueillies différemment. Et on leur remettra le programme et le détail des 13 ateliers qui sont proposés. Parce qu'il y a 13 ateliers, alors il y a l'accueil, il y a un espace convivialité, mais il y a aussi un atelier pour les enfants, donc ils vont être invités à faire des vitraux, à faire un puzzle, des choses comme ça. Il y a deux chapelles où on pourra effectivement, de chapelles de dévotion à Sainte-Jeanne d'Arc et une autre à Marie, Mère de Jésus. Il y aura dans la chapelle axiale donc l'adoration permanente du Saint-Sacrement avec des relais. Il y aura aussi un atelier jeux parents-enfants. Donc là, c'est pris en charge par Ad Altum. C'est déguisement, photos, petites scénettes. Il y a aussi une visite de la basilique, visite de 15 minutes. Alors oui, c'est rapide, et on ne sait pas combien il y aura de personnes. Donc on a une équipe qui a mis au point, avec Vincent Didier et Patrick de Mouy, ils ont mis au point une visite rapide de quelques lieux emblématiques de la basilique. Il y aura aussi une projection en continu sur la vie de Saint-Remy et la vie de Sainte-Jeanne d'Arc, là aussi validée par Patrick de Mouy. Et il y aura un lieu d'accueil et d'écoute. Accueil, écoute, confession. Écoute, en fait, aussi des gens ont envie de parler. Donc, il y aura des prêtres, diacres et laïcs qui seront présents. Voilà. Et puis, donc, l'espace convivialité, c'est l'occasion de prendre un café, un jus de fruits qui est offert.
Justement, François Leboeuf, on se rend compte qu'il y a une grande diversité dans la proposition que vous allez faire tout au long de ce week-end des fêtes joanniques, aussi bien la diversité en termes de personnes qui sont là pour accueillir justement les visiteurs, en termes de diversité également, en termes d'activités que vous allez proposer. C'était important, j'allais dire, de pouvoir cocher toutes les cases et d'accueillir à la fois les amis, les visiteurs en solitaire, les familles, les personnes qui ont une sensibilité religieuse plus importante que d'autres, les personnes qui sont un peu plus éloignées de l'Église. L'idée, c'est de faire le meilleur accueil possible à tout le monde.
Ah oui, on accueille tout le monde, parce que dans la basilique, le thème, c'est dans la basilique, Jeanne allume le feu dans nos cœurs. Donc elle allume le feu pour tout le monde. Les enfants, les parents, les gens qui viennent seuls, voilà, ceux qui connaissent l'église, qui la connaissent pas, voilà. L'objectif, donc les bénévoles, il y a plus de 70 bénévoles, ils ont reçu une formation par YouTube, donc on leur a fait un module, parce qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on est là pour écouter, on est là pour accueillir, on est là pour partager. Et puis, aller plus loin si on sent qu'on peut aller plus loin. Mais voilà, déjà, on accueille, on partage, on a le sourire. Voilà, donc là, on a fait aussi une formation des volontaires ou des bénévoles pour cela.
François Leboeuf, voilà. Pour donner les informations pratico-pratiques autour de cet événement, le week-end des fêtes joanniques à Reims et autour de la basilique Saint-Remy, c'est samedi et dimanche. Pour vous, quels sont les horaires d'ouverture de la basilique dans lesquels les différents services diocésains, les différents espaces missionnaires, etc., les différentes missions seront présentes pour accueillir le public? Vous êtes là de quelle heure à quelle heure? Concrètement, c'est ma question.
Alors, samedi, on est là à l'ouverture des fêtes médiévales de 11h à 19h ou 20h. Et le dimanche, il y a les messes le matin, donc on n'est pas ouvert. Et on réouvre de 12h à 18h. Comme les fêtes joanniques, en fait. On est sur le même timing.
Donc finalement, les auditeurs de RCF qui vont aller faire un tour aux fêtes joanniques ce week-end, on n'en doute pas, en plus, il devrait faire beau. Ils peuvent venir vous rencontrer, ils passent un bon moment. Et puis c'est toujours aussi agréable, au-delà de l'histoire que vous allez partager, de découvrir, de redécouvrir ce lieu symbolique qui est Saint-Remy pour la ville de Reims.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis Saint-Remy, Sainte-Jeanne d'Arc, et puis redécouvrir ce haut lieu très symbolique pour la ville, pour le diocèse. Voilà, c'est important aussi de dire que c'est pas simplement un lieu où architecturalement c'est superbe, c'est aussi un lieu où en tant que chrétien on a quelque chose à dire, où Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre à travers les vitraux, les statues, mais aussi un temps d'adoration, un temps de dévotion, voilà.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, François Leboeuf, vous qui êtes membre de l'espace missionnaire Reims Sud, membre de l'équipe de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims, de nous avoir présenté ce très bel événement en lien avec les fêtes joanniques. Ça se passe à la basilique Saint-Remy de Reims, samedi, 11h jusqu'à 19h-20h. On prolonge dans la soirée s'il y a besoin. Dimanche, à partir de midi jusqu'à 18h, vous accueillez tous les visiteurs avec plusieurs activités. Tout cela est organisé grâce au mouvement scout, à l'équipe pastorale de l'espace missionnaire, aux équipes d'animation de l'espace d'espace, aux équipes qui s'occupent des enfants lors des messes du dimanche, aux musiciens d'espace, à la fraternité missionnaire et aux acteurs des différents mouvements de l'espace missionnaire. C'est l'occasion de saluer tout le monde parce que c'est un véritable travail d'équipe où il y a un gros travail en amont avant de faire la fête ce week-end. Mais quoi qu'il en soit, on donne rendez-vous à tous les auditeurs de RCF à l'intérieur de la Basilique Saint-Rémy. Merci François Leboeuf, on vous souhaite un excellent week-end et on vous retrouvera d'ici quelques jours pour faire le point, savoir si la Basilique a accueilli cette année aussi son lot de visiteurs, 10 000 et plus on l'espère.
Merci beaucoup et puis oui, un très grand merci pour votre aide.
Le rendez-vous est bien noté dans l'agenda. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous n'aurez que l'embarras du choix ce week-end avec plusieurs propositions variées pour vous divertir. Merci les filles de nous avoir accompagnées jusqu'à 19h ce soir. Médina, une très belle soirée.
Merci à vous aussi.
Inès, bonne soirée.
Merci Alexis, bonne soirée à tous.
On se retrouve demain à 18h10 pour le magazine régional. Vos programmes locaux reviennent notamment compter information dès 7h demain sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Nous serons avec Monseigneur Étienne Véteux également en DAB+, avec Jean-Pierre Benoît. Et puis l'information, c'est tout de suite avec le réseau national de RCF. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.